19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous suivre et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Oui, c'est une famille qui grandit de plus en plus. 19h-20h, nous sommes ensemble pour analyser, commenter et décrypter l'actualité comme chaque soir, chers amis auditeurs. Et ce soir au menu, ce qui vous attend, tout d'abord l'interview concernant un certain nombre de, évidemment, de sujets, concernant même précisément à la fois les quartiers populaires, mais également aussi les femmes. C'est avec la présidente, fondatrice, Madame Fadela Meal, qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Et puis au menu de cette émission, jusqu'à 20h, vous savez, trois débatteurs influenceurs qui sont avec nous, à la fois des représentants de Renaissance, mais aussi des gens de la société civile qui vont confronter leur point de vue. Alors, bien sûr, l'actualité oblige, M. Gabriel Attal vient d'être nommé par le président, le chef de l'État, le président de la République, Emmanuel Macron, Premier ministre. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce que, alors beaucoup j'entends évidemment d'ores et déjà que 34 ans c'est jeune pour un Premier ministre. Nous allons en parler, y compris vous aussi au 0153483000. Est-ce que vous estimez que à 34 ans on peut avoir à la fois le charisme, on peut avoir l'autorité, on peut avoir l'enjeu concernant donc la casquette du Premier ministre? Nous allons en parler ici même dans les informés. Ensuite nous parlerons de ce remaniement parce que vous savez, ce remaniement aussi va, dès demain, paraît-il, avoir d'autres noms qui circulent pour les nominations pour certains portefeuilles. Le procès, l'affaire Théo, souvenez-vous, quand Éric Dupond-Moretti défendait justement une victime de violence policière. On en parle aujourd'hui. Eh bien, est-ce que Éric Dupond-Moretti, qui est ministre de la Justice, pense toujours la même chose? On en parlera. Et la loi immigration. Accrochez-vous bien, une marche a été annoncée. Alors, elle s'annonce comme une marche inédite. Ça se passe le 21 janvier pour montrer en vrai la vraie France, paraît-il. Bon, alors on a une fausse France et on a une vraie France. Et ce n'est pas ça la France. Alors, on va tenter de savoir quelle est cette France, ce nouveau visage de cette France. Voilà, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Madame Fadela Meal. Bonjour, la présidente.
Bonsoir.
Fondatrice de Marianne de la Diversité. Bonsoir, Madame la présidente. D'abord, comment allez-vous?
Très, très bien. Mais écoutez, bonne d'abord, année. Je voudrais présenter bonne année. Mes voeux à tous vos auditeurs.
Oui.
De santé, de sérénité et de la paix dans nos quartiers.
Alors, justement, quand vous dites la paix dans les quartiers, qu'est-ce que vous entendez par cela, ma chère présidente?
Ben écoutez, je viens de boucler le tour de France des femmes et des mères des quartiers populaires après les violences estivales, après la mort de Naël. Et donc, on a voulu aller sur place pour se rendre compte un petit peu du traumatisme, bien sûr, mais aussi les perspectives pour renouer un petit peu avec la cohésion sociale. Et donc, ce tour de France s'est terminé à Nanterre. Il a commencé le 15 juillet. Il s'est terminé le 22 décembre et donc nous avons rencontré comme ça à peu près 250 femmes.
D'ailleurs, Madame la Présidente, on a eu l'occasion d'en parler sur notre antenne.
Exactement, vous avez raison. Justement,
parce que comme vous êtes venu témoigner, pardonnez-moi de vous interrompre, quel est ce premier bilan que vous pouvez en tirer de ce tour de France, des femmes, des Mariannes de la diversité?
Ben écoutez, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que les braises ne sont pas éteintes, que aujourd'hui on n'est pas à l'abri d'une reprise de ces violences, que tout élément, toute étincelle, que ce soit un regard oblique, que ce soit une arrestation, que ce soit un fait divers, tout peut reprendre parce que visiblement, je pense qu'il y a des causes sociales et à la fois identitaires là qui sont très très fortes et que les femmes elles regardent ça avec parfois impuissance, avec tristesse et parfois beaucoup de colère quand même.
Vous parlez des femmes, est-ce que c'est pas aussi, pardonnez-moi de vous poser la question de façon brute, une certaine façon, je sais que les femmes sont de plus en plus à l'honneur dans les quartiers populaires, mais est-ce que c'est pas aussi d'une certaine manière exclure les autres, c'est-à-dire les jeunes, les vieux? Comment essayer d'avoir une harmonie avec, évidemment, sans oublier certains?
Vous avez raison, on ne peut pas faire de l'exclusion, mais moi, ce que j'évoque, c'est aujourd'hui la fonction parentale, parce que c'est à partir de là, c'est le socle sur lequel sont élevés des enfants, et quand cette difficulté apparaît au niveau parental, avec des pères absents, j'ai eu beaucoup de mamans solo, hein, qui étaient là, élevant souvent des adolescents, et je peux vous dire qu'on peut parler des problèmes de la jeunesse, mais elles viennent aussi de cette difficulté. Moi, j'aime pas le terme de parents défaillants parce que pour moi, c'est la défaillance, elle est souvent sociale et économique. Mais c'est des femmes qui se trouvent dans des situations inextricables parfois et elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin de soutien parce que c'est elles qui tiennent la feuille et la feuille, en l'occurrence, de la République. Et donc, si j'aborde la question des femmes, parce que d'abord, elles sont volontaires. Et qu'on l'a vu comme quand on a créé les Mariannes de la diversité aux premières émeutes en 2007, eh bien ce sont les femmes qui se sont levées. Ce sont elles qui ont éteint le feu dans le cœur de leurs garçons. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. On l'a vu de façon très, très objective.
Vous avez raison. Aujourd'hui. Vous avez raison, Madame Fadel Amel.
Parce que les femmes, elles recherchent la paix, par essence. Et qu'elles sont toujours en première ligne parce qu'elles ont la dimension affectif, parce que c'est la mère nourricière, celle qui transmet, mais aussi parce qu'elles sont les plus fragiles, comme leurs enfants. Et donc, c'était important de leur apporter notre soutien et de voir, parce qu'au-delà des doléances, au-delà des difficultés, moi, ce qui m'intéresse, c'est construire un avenir, et donc un avenir positif. Et c'est pour ça que nous avons fait, à travers leurs propos, 18 propositions pour aller mieux.
Dites-moi, vous savez que justement l'exécutif, le gouvernement a pointé les parents non responsables. D'ailleurs, ça a provoqué pas mal de polémiques. Je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a un peu justement écarté les femmes? Est-ce qu'on n'a pas, vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que les quartiers populaires se sentent de plus en plus abandonnés au sein de cette République?
Malgré tous les fonds qui ont été déversés, c'est vrai. Et moi, j'ai une conclusion, parce que tout le monde dit la même chose. On a beaucoup travaillé sur l'urbain, c'est-à-dire qu'on a refait les cages, on a démoli les ghettos, on a embelli l'environnement, mais on a délaissé l'humain. Et donc, l'humain, c'est quoi? Ben, c'est les grandes associations d'éducation populaire, c'est la possibilité d'avoir les services publics, c'est d'avoir un visage, quelque chose qui incarne l'État et qui est très proche de vous dans la proximité. On a beaucoup parlé aussi de la police de proximité qui s'en est allée. Et c'est vrai que la politique de la ville, elle a beaucoup, beaucoup amélioré le quotidien physique. Mais ce qui reste, c'est cette dimension humaine qui n'a pas marché, puisque aujourd'hui, elles me le disent, hein, même avec l'école, avec tout est numérisé. Il n'y a plus de regard, il n'y a plus les moyens de payer des médiateurs, des éducateurs. Et donc, cette question, elle est centrale aujourd'hui. Si on veut recoudre un petit peu le fil de cette cohésion, il faut qu'on réinjecte des moyens humains pour finalement permettre aux gens de faire des médiations, de vivre ensemble, de se comprendre, de se confronter, pourquoi pas, mais d'aller un petit peu de l'avant.
Il y a une date qu'on ne doit pas manquer, si j'ai bien compris, c'est ce jeudi, le 11 janvier.
C'est ce jeudi, à partir
de 14h, à l'hôtel de l'Industrie.
De l'Industrie, alors on a voulu faire venir les quartiers populaires à Saint-Germain-des-Prés. C'est pas anodin, c'est symptomatique et c'est symbolique. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de lieu interdit au quartier populaire. Et donc, on est très, très heureux parce que l'hôtel de l'Industrie nous a fait l'amitié de nous recevoir. Et il y aura un panel de femmes qui viendront de toutes les régions de France, donc de Nice, de Beauvais, de Vaux-en-Velin, de Strasbourg, et qui viendront témoigner.
De 14h à 18h30, hein.
Ouais. De 14 ans, je pense qu'on ira jusqu'à 19h. On avait la chance d'avoir 3 ministres, mais avec le remaniement, on est plus sûr de les avoir sur leurs fonctions, puisque en fait, c'était très important pour nous d'avoir Aurore Berger, qu'elle vienne aussi s'expliquer par rapport à ce qu'elle a dit et sur lesquelles, d'ailleurs, je voudrais revenir, parce que la majorité des mamans ont été extrêmement fermes, hein, en disant les parents défaillants vraiment qui se déresponsabilisent, il faut absolument qu'il y ait des sanctions proportionnées et cohérentes. Mais elles disent en même temps, on veut des droits, mais on veut aussi des devoirs. Et c'est pour ça que là où ça chope un peu, c'est qu'elles ne sont pas du tout, elles ne refusent pas que puisse y avoir des sanctions et de la fermeté, mais elles veulent en revanche que les questions d'égalité soient résolues. Donc le deux poids, deux mesures, ça c'est quelque chose qui est insupportable dans les quartiers. Mais sinon, on se trompe quand on pense que les femmes sont laxistes et qu'elles considèrent aujourd'hui que c'est les enfants rois et les enfants tyrans qui peuvent tout faire. Non, moi je l'ai expérimenté dans toutes mes réunions. Elles veulent en effet de la fermeté et tous ceux qui ne respectent pas la règle soient éventuellement sanctionnés. Mais ce qu'elles disent, c'est qu'en contrepartie, il faut lutter contre les discriminations, contre ce qui se passe aussi, les préjudices aux faciès, les orientations scolaires qui ne fonctionnent pas, l'accès professionnel qui est moins ouvert. Voilà, donc c'est très équilibré dans leurs propos.
Alors, il se trouve que sur le plateau, justement, deux personnalités sont conviées à votre événement. C'est Bruno Pomar, que vous connaissez très bien, ces deux personnalités qui vous apprécient, et Bibi Lassiri. Et ils veulent vous saluer et dire un petit mot.
Moi,
Bruno Pomar et Bibi Lassiri.
Ils sont là,
ils veulent vous saluer.
Merci, formidable l'engagement des femmes. Évidemment, c'est important de mettre en avant nos mamans, comme on dit. Mais c'est vrai que je crois que les femmes dans les quartiers, je serai ce week-end d'ailleurs à Marseille, aux Flamands et aux Égalades, où je vais travailler avec des associations, mais effectivement, les mamans sont les premières mobilisées. On l'a vu il y a peu de temps, d'ailleurs, avec une association de mamans qui s'était levée contre les dealers. On a vu les daronnes de la région lyonnaise. Il y a toutes ces femmes qui sont mobilisées. Où sont les hommes? Waouh!
Franchement, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure la Fadel Amel, justement, la présidente.
C'est un scandale. Ouais. Les hommes sont
en
pas
là. En tout cas, vous serez à l'événement.
Je serai présent à son événement.
Bibi Lassiri aussi, également.
Oui, moi, Fadela, on se connaît depuis des années, elle et moi. On se voit souvent dans des événements. J'adhère à ce qu'elle dit, parce que quand on parle avec des copains qui ont grandi dans les quartiers, souvent ils te disent moi ce qui m'a sauvé c'est ma mère.
Et bien sûr.
Elle venait me chercher au milieu des autres, elle me tirait les oreilles, elle me ramenait à la maison. C'est la mère qui fait tout le boulot. Bon après où sont les pères? Les pères ils sont pas là parce qu'ils bossent, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont pas des boulots.
Pas tous.
Ouais, non, mais parce qu'on parle toujours de des trois qui travaillent pas, mais il y a aussi la quantité de ceux qui travaillent et qui sont pas là. Mmh,
c'est ça. Fadel Amel, un dernier mot avant de vous libérer, ma chère présidente.
Oui. Merci. Et vous saluez tout votre auditoire et vous leur dites que je leur donne rendez-vous donc jeudi à 14h. Yes. Ils sont les bienvenus et puis nous allons continuer parce qu'il ne suffit pas de faire le tour de France. Il faut après construire un avenir. Mmh. Et j'espère qu'avec le remaniement, on aura des ministres qui seront à la hauteur de cette ambition.
Merci infiniment, bravo. Ma chère Fadel Amel, présidente, bravo. Fondatrice des Mariannes de la Diversité. Et bel événement à vous. On vous le souhaite infiniment. On marque une première pause et on se retrouve avec les débatteurs influenceurs. Et vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000, vous le savez, concernant la nomination de Gabriel Attal. Est-ce que vous le trouvez jeune à 34 ans à peine, donc nommé Premier ministre? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Avant de retrouver nos auditeurs, vous le savez, les 19h20, où nous allons lancer le face-à-face. C'est parti.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Et aussi de retrouver nos auditeurs. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 53 48 3000. Solal vous accueille avec grand plaisir au standard. Faites-le, comme chaque soir d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, je vous en remercie infiniment. Est-ce que vous trouvez que Gabriel Attal, en tant que Premier ministre, est beaucoup trop jeune pour diriger l'exécutif, diriger le gouvernement? À 34 ans à peine, c'est le Premier ministre le plus jeune de la 5e République, ou tout court, tout simplement.
Oui,
à 34 ans.
Il y avait Fabius.
Fabius, c'est à 37 ans, et puis c'est à l'ancienne, c'est pas pareil, hein, effectivement, on ne peut pas comparer, mais en tout cas, parlons-en, venez en parler au 01 53 48 3000. Messieurs, tout de suite, Ergun Toparslan, comment ça va?
Super, et vous?
Tout va bien, l'un des porte-parole de Renaissance, tout se passe bien?
Bon, aujourd'hui, ça va un peu mieux, maintenant on attend l'architecture du gouvernement pour avoir un peu plus de visibilité.
J'ai eu peur de voir arriver Bardella.
Vous êtes réjoui pour la nomination?
Oui, personnellement déjà oui, et de deux, comme il y avait une séquence qui durait depuis plusieurs heures, on était content d'avoir la fumée blanche, comme on dit.
Ah, ça, je sens que ça va débattre, justement. Le président fondateur, notamment, il est chroniqueur télé aussi, c'est Bruno Pomar. Bonjour Bruno Pomar.
Salut mon cher Adil, et salut aux auditeurs de Beurre FM, et salut aux...
J'aimais la casquette Raid Aventure, suite Raid, tout est Raid.
Elle est dédicacée.
Ah oui, dédicacée, oui. c'est vrai.
Ouais, ça fait des semaines qu'il m'a promis de m'en donner une.
Pourquoi vous ne voulez pas lui en donner? Pardon.
Non, parce qu'on n'est pas du même avis politique. Et donc, quand il changera, peut-être que je ferai des forces.
Sectarisme.
Bibi, la série, scénariste, réalisateur, acteur, il est en train de travailler sur un film qu'il promet, sachez-le.
Ouais. Oui. Il nous reste une journée de tournage.
Une journée de tournage.
Ouais.
Magnifique. Nous, on veut être. Attention, hein. Nous, vous nous invitez. Hein, c'est le tapis rouge, l'avant-première. Ouais. Et la radio est partenaire.
Il n'y a pas de flics qui viennent dans mes films.
tu vois. Ça s'adresse à qui après
Moi, je pourrais être là.
Ergun, t'en passes là, on peut venir donc.
Non, pas de renaissance. Pas de renaissance.
Ergun, ne t'inquiète pas, on est deux contre un.
Voilà, j'adore. Messieurs, justement, nous allons parler, vous savez quoi, de Gabriel Attal. Je voudrais qu'on parle d'ailleurs de d'abord de son âge, avant de parler de l'enjeu qui l'attend et de tout ça. Alors, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux ce reproche de dire beaucoup trop jeune pour gouverner, trop jeune pour avoir cette autorité à l'égard des autres, trop jeune aussi notamment pour diriger des personnalités au sein de l'exécutif comme Bruno Le Maire. J'ai vu tout ça, lu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Qui veut prendre la parole en premier? Bibi Nassiri. Allez, je veux qu'on mette les pieds dans
le plat. Déjà, pour se battre avec Bruno Le Maire, ça va être chaud. Mais je pense que...
Ah, c'est pas dit. Attention, Bruno Le Maire, peut-être qu'il va pas se plier aux
règles. Je pense que Bruno Le Maire et, j'oublie son nom, le ministre...
Gérald Darmanin.
Et Darmanin, il doit avoir les boules, mais sacrément, donc mais ça
c'est
va...
C'est des fortes personnalités.
Oui,
c'est
oui, je pense que... Bon, je pense que déjà, de ce point de vue-là, c'est pas une bonne stratégie, mais bon... Chacun fait ce qu'il veut. On est habitué aux mauvaises stratégies avec ce président, donc.
L'argument de l'âge est un argument qu'il faut prendre en compte malgré tout, parce que très souvent on met dans la balance l'expérience qui est importante. Mais là, on avait un sujet important qui était l'équilibre de la majorité présidentielle, même si elle est relative au sein de l'Assemblée nationale. Mais derrière, il y avait une nécessité aussi de faire, d'avoir un game changer, parce qu'on était un peu dans un rythme où on attaquait les élections européennes qui allaient venir avec une fatalité de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Donc,
est-ce que c'était pas par hasard tout simplement de contrer Jordan Bardella? C'est ce qui s'est dit.
En vrai,
c'est ça aussi. Hein,
en vrai, les ministres qui ont une cote de popularité qui a augmenté comme la sienne, puisque depuis qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, sa cote de popularité a presque doublé. Il y en a très peu. Il y avait une Atalmania, comme on appelait ça. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut concrétiser. Dans l'opinion publique, c'est ce qui est mesuré. Maintenant, il faut concrétiser ça politiquement. Et c'est une grosse tâche.
Je suis pas d'accord avec vous, Bibi Nassiri.
Non, je suis pas d'accord.
Moi, ce que je crois, l'âge est pas un problème. Il faut savoir quand même qu'il est ministre depuis 5 ans, depuis 2018. Il a été secrétaire d'État auprès de Blanquer. C'est lui qui a lancé le SNU, Service National Universel, demandé par Macron. Et moi, je soutiens à bloc ce dispositif parce que j'y travaille à bloc dessus. Donc, je trouve que c'est intelligent. Il a su faire un parcours au budget. Il a été porte-parole du gouvernement. Éducation nationale, c'est un jeune mec qui a une expérience quand même impressionnante. Alors, après, on dit, effectivement, il y a des poids lourds comme Gérald Darmanin, comme Bruno Le Maire, effectivement. C'est pas des gens faciles parce qu'ils ont une grosse expérience politique. Mais je crois qu'il y a une volonté, je pense, de cette majorité, de ce gouvernement qui sort là, d'aller tous dans le même sens. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que la France sort de ces problématiques. Donc, en ayant un jeune comme lui, qui a plus de sens politique qu'à mon avis Elisabeth Borne, qui était une pure techno, elle avait des qualités, mais ça restait une pure techno, je pense que Gabriel Attal a une approche beaucoup plus politique vis-à-vis de tous les gens du gouvernement. Donc je pense qu'en soi il va s'en sortir.
Mais la série,
je suis très positif.
Oui, voilà, on a un Premier ministre qui a un âge mûr, qui a eu des enfants, qui a eu une vie bien remplie, qui a eu des écueils, qui a une expérience de la vie.
Ça s'avane là.
Ça va, bien sûr.
Avec beaucoup de boutades.
Ben oui, je le dis avec beaucoup de boutades parce que c'est, pour moi, c'est invraisemblable. Je sais pas, demain, on va mettre Harry Potter, ministre, je sais pas quoi. Non, mais pour moi, c'est invraisemblable.
Invraisemblable. Bon, ben, je laisserai le soin.
C'était comme l'élection d'Emmanuel Macron. Elle était invraisemblable si on demandait aux anciens, aux dinosaures, comme on appelait ça.
Et puis, il y a plus longtemps.
Est-ce qu'un jeune qui n'a jamais été élu pouvait être président de la République?
Laurent Fabius, il y a très longtemps.
C'était pareil aussi.
Moi, la question de l'âge, pour moi, mon cher Bibi, c'est pas un problème. Il a 5 ans d'expérience de ministre, ce mec-là. C'est un vrai bosseur. Moi, j'ai pu le côtoyer un petit peu. C'est un vrai bosseur. Le mec, il a beau avoir 34 ans. Je dis encore une fois.
On parle de Français qui n'arrivent pas à finir le mois, on parle de gamins.
Il l'a pour essayer de trouver des solutions.
On parle de Français qui n'arrivent pas à finir le mois. On parle de jeunes, des étudiants qui font la queue pour aller pour avoir à bouffer. Oui, on parle de plein de choses comme ça. On parle de parents qui n'arrivent pas à gérer leurs gosses. Et on nous met un gamin de 33 ans pour discuter et gérer ses problèmes.
C'est son point de vue. C'est son point de vue.
Oui, mais la fausse, c'est les portes ouvertes en disant ça. Facile de dire de faire.
Oui, mais
c'est des constats.
C'est pas moi qui ai ouvert la porte.
Mais le problème, c'est que vous faites toujours des constats sur les plateaux télé, de te donner des leçons.
Non, je passe sur les plateaux télé, moi.
Faites-vous élire, les gars.
Faites-vous.
Au-delà de ça, je pense qu'est-ce qui est important, et peut-être pour essayer de débattre aussi avec Bibi là-dessus, le sujet, c'est pas ce qu'on est, mais ce qu'on fait. Voilà. Aujourd'hui, sur ce qu'il a fait, malgré son âge, Gabriel Attal, il a fait des choses intéressantes. En tout cas, pas inintéressantes pour nous. Mais effectivement, au vu des enjeux qui nous attendent, parce que vous avez parlé des enjeux sociaux très importants, mais des enjeux environnementaux, économiques, financiers, avec l'inflation, on s'est donné des gros objectifs. Là, effectivement, on va passer dans la lessiveuse. Et pour nous, nous, on estime, en tout cas, c'est mon avis aussi, que pour donner une nouvelle impulsion à ce gouvernement, parce qu'on a pas, on a fait voter une loi immigration de façon assez compliquée aussi fin d'année dernière, on avait besoin d'un sang neuf et un peu d'un nouveau souffle. Et c'est dans ce sens-là, sans faire d'autres coalitions, puisque malgré tout, les partis d'opposition sont restés dans l'opposition. Il y aurait eu un accord de gouvernement avec les LR ou autres, on aurait peut-être eu d'autres perspectives. Oui. Mais aujourd'hui, c'était
la meilleure solution. Et l'impulsion qu'il a donnée à l'éducation nationale, la Baïa.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ça sonne, attention. La première auditrice, justement, Fatima, qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Fatima.
Bonsoir, Adil.
Bonsoir, ravi de vous retrouver. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination de Gabriel Attal?
Alors,
est-ce que vous êtes plutôt vous vous rangez plutôt de l'avis de Bibi Nassiri ou plutôt de celui de Bruno Pomard et Ergun Topaslan?
Attendez, je me range derrière personne.
Au moins c'est clair. Voilà.
Voilà. Écoutez, Adil, avant de parler de Attalmania.
D'Attalmania, c'est moi. Ah, c'est vous. C'est Ergun.
Voilà, d'en parler le politique là, de Renaissance. Moi, je vous dis.
Elle le dit avec beaucoup. Elle est gentille en disant ça.
Ergun, il n'y a aucun problème.
Je vais vous dire une chose. Si mon doigt pouvait se couper, je le couperais, parce que tellement je regrette d'avoir voté pour lui. Ceci d'une part. Mais si tu me permets, Adil, je voudrais juste dire un mot sur Madame la sénatrice,
c'est
pas ?
Oui.
Alors, je voudrais dire à tous ces gens-là, arrêtez avec cette victimisation. Parce que la France, c'est le seul pays qui a autant, qui donne autant pour le social. Je ne sais pas que depuis l'ère de Macron, depuis toujours. Donc la délinquance, c'est les parents. Qu'elles ne viennent pas nous dire, nous raconter ceci, cela. La délinquance, c'est les parents. Et arrêtez de dire que, à part s'ils ne peuvent plus les élever, leurs enfants, eh ben, ils les donnent à l'assistante, je ne sais pas moi, pour les élever.
Vous avez raison, madame, vous parlez très bien.
Qu'est-ce que vous dites, Bruno Pomard qui voudrait réagir avec vous.
Elle a tout à fait raison, cette dame, c'est l'éducation, c'est la fin du point final.
Et il faut donner ses enfants à l'assistante.
Excusez-moi. Écoutez, alors quant à Attal, ben depuis quelque temps, ça roule à l'envers. Attal, il est là. C'est, maintenant, les politiques, ils sont pas choisis pour leurs compétences. Ils sont choisis parce que c'est des amis, c'est des copains, c'est pour service rendu, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et Attal, il sûrement. C'est le prochain président, enfin, pour le présenter comme prochain président, comme candidat pour 2027, parce qu'ils ont vu que Bardella.
C'est pour ça que je parlais de Jordan Bardella, effectivement.
Voilà, moi je l'appelle Bardella. Donc ils se débrouillent très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, je vais mettre Attal parce que c'est un beau parleur. Mais Bardella, il ne va pas rester jusqu'en 2017, parce qu'il a mis un Jules Beb, il est en train de mettre un Jules Beb à
2027,
Marine Le Pen. 2027. Et c'est sûr que Marine Le Pen va le dégommer. Donc. rien n'est sûr pour 2027. Il y a même jusqu'à 2027. Au lieu de s'occuper des problèmes des Français, regardez, il y a 3 000 SDF qui couchent dehors. Il y a des millions de mal logés. Ce n'est pas parce qu'on est logé qu'on est bien logé. Donc il y a des millions de mal logés. Du pouvoir d'achat. La tomate, elle est à 5 euros. Vous imaginez ?
Tout à l'heure.
Voilà, je suis avec vous, madame.
La complexité des familles à finir en fin de mois, la complexité dans leur quotidien, la complexité évidemment de survenir à tous les besoins, tout simplement.
Personne n'en parle.
Parce qu'ils savent pas que ça existe.
Ah, si, hein, si, ben si, voilà, il y a des mesures qui sont prises, il ne faut pas non plus.
Oui, des mesures.
Faut pas non plus être excessif.
Ce n'est pas demain Attal, avec son costume à je ne sais pas combien, qui va savoir si M. SDF est là ou s'il a besoin de lui.
Merci,
ou de
Fatima.
Quelque chose.
Merci, Fatima.
Merci beaucoup.
Merci, ouais, Fatima. Merci.
Je suis dégoûtée.
Donc, moi aussi, Fatima. Finalement, elle donne un peu, elle donne raison à Bibi Nassiri.
Oui, mais on est dans l'excès.
Au 0153483000, chers amis auditeurs, on vous attend. Pourquoi vous êtes dans. Pourquoi Fatima, elle n'est pas dans l'excès, là?
Non, mais.
Elle raconte sa vie, elle dit effectivement, Attal ne répondra pas aux besoins.
Mais avec Bruno, si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es dans l'excès.
Mais non. Mais oui, parce qu'il faut être mesuré, ouais, mais c'est ce qui est emmerdant. Sur un plateau télé, c'est t'es pour ou contre, hein. On n'a pas d'équilibre. Il y a des choses qui ont été faites, tout n'est pas parfait dans ce que fait le gouvernement de Macron, évidemment, mais il y a quand même des choses qui ont été faites en termes d'aide.
Fatima,
on est dans une société qui devient
déjà
de plus en plus compliquée.
Elle dit qu'elle est dégoûtée, elle dit, vous l'entendez son message?
Oui, mais
elle est quand même dans un désarroi, là.
J'entends bien, mais il y a des choses qui sont faites aussi. Ce que je
oui,
dire,
par exemple, moi, j'ai voté pour Macron pour faire barrage au Front National, et dernièrement, ils ont voté une loi qui est pire que celle du Front National.
Non, donc, je me suis fait avoir. C'est une bonne chose.
Bon. Écoutez, messieurs, nous allons, vous savez quoi, poursuivre le débat, parce qu'il faut qu'on parle. Moi, je voudrais quand même qu'on parle de ce. Qu'est-ce qui peut attendre, évidemment, Gabriel Attal en tant que Premier ministre? Est-ce que, d'ailleurs, il y a deux échéances, c'est les JO, mais ça, c'est un peu loin, mais surtout les élections européennes. Ergun Tabaslan, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il a le leadership pour rassembler? C'est là la vraie question, parce que c'est ce qu'espérait Emmanuel Macron, justement.
Alors nous, le sujet du leadership, on l'a clarifié. C'est-à-dire aujourd'hui, les premiers ministres, mais le président de la République préside quand même. Maintenant, il va articuler une équipe autour de lui, avec une architecture qui sera représentative de la majorité. Mais comme vous avez dit, avant ces enjeux de mi-année vers juin et juillet, on a des enjeux directs qui nous attendent avec les sujets d'inflation. Elle a parlé, elle a dit que la tomate coûtait 5 euros, elle parlait du kilo de tomate, mais effectivement, on a un sujet sur l'alimentaire où l'inflation qu'on avait prévue est un peu en dessous de ce qui est réellement.
3-7,
donc là, tout de suite, dans les deux premiers mois, d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire lors de ses vœux, il y a un objectif très clair d'aller baisser l'inflation alimentaire début février. Donc là-dessus, il sera attendu. Nous, on croit que si on a une vraie dynamique autour de lui, et c'est qu'il y a une vraie pulsion aussi avec Bercy qui travaille main dans la main, on arrivera à atteindre ses objectifs. Derrière, on a un enjeu d'ouverture à l'international très important avec les JO cet été. Et donc là, on ne peut pas se permettre de se louper, notamment d'un point de vue sécuritaire. Ça va se passer sur la région parisienne. Donc le sujet du ministère de l'Intérieur va être important. Le chantier est colossal. Mais encore une fois, on a toutes les qualités et les talents autour de la table du gouvernement pour pouvoir les relever.
Et ben on continue d'en
sans
parler.
Perdre de vue les enjeux environnementaux qui s'accentuent. Pardon.
On continue d'en parler. Je donnerai la parole à Bibi Nassiri et enfin aussi également à Bruno Pomard. On marque une courte page, une pause plutôt. Et on se retrouve dans une poignée minute, à peine pour continuer de parler, évidemment. Évidemment, des enjeux qui nous attendent, mais surtout on ira s'intéresser à l'affaire Théo, le procès. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec Bruno Pomard, Bibi Nassiri et enfin Ergun Tabaslan qui sont avec nous sur le plateau pour confronter leur point de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. 0153483000, on vous attend au standard pour parler de la nomination de Gabriel Attal, à peine 34 ans, déjà Premier ministre. Va-t-il trop vite? On en parle avec vous et je voudrais vous entendre. Alors, même question, hein, Bruno Pomard et Bibi Nassiri. Même question, hein, pareil, hein, sur... évidemment, la réponse de Ergun. Qu'est-ce que vous répondez, vous?
Sur les chaussures de...
Excusez-moi, Adil.
Il est en train de dormir.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est l'âge.
On est sur quoi?
Ah, j'ai mal.
On est sur BFM.
Vous m'avez fait mal sur BFM.
Est-ce que tu peux appeler l'infirmière, s'il te plaît?
Les enjeux qu'attendent Gabriel Attal, notamment...
Excusez-moi, non. Moi, je pense que j'ai bien écouté ce que disait Ergun, qui connaît bien le sujet.
On parlait des JO, on parlait des élections. Est-ce qu'il a le leadership, justement? C'est ce qu'on disait.
Oui, il va l'avoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, il a le sens politique. Excusez-moi de faire la comparaison avec Madame Borne, qui a sûrement des qualités, mais pas celle d'être une femme politique. Ça, c'est un élément important. Et il a le sens politique, Gabriel Attal. On a besoin de ça avec le gouvernement comme avec les oppositions qu'il va devoir affronter. Pour les Jeux Olympiques, ça c'est évident. Et pour les Européennes. Pour les Européennes, il sera en face à face avec Bardella. C'est clair. On sait que le Rassemblement National actuellement est à plus de 30%, sauf si je l'ai dit. des bêtises, mais c'est ça, 30%. Donc voilà, et il faut sauver le navire Renaissance à tout prix. Et je pense que il peut peut-être essayer de sortir Renaissance de la mouise à laquelle
ils sont.
Oui, moi je vais pas faire de comparaison entre Renaissance et le Front National parce que je vois plus de différence. Mais oui.
Ah, quand même, il n'y a pas une grande différence quand même.
Ah bah non.
On ne peut pas dire différence. Ça, mon cher Bébé Nassiri.
Je sais pas.
Renaissance et Renaissance, et le Rassemblement National.
Ah, tu parlais du nom, oui, c'est pas le même nom. Je suis d'accord.
C'est pas une question de nom, c'est une question de politique.
Oui, c'est pas par politique, rapport à la loi d'attachement à l'état de droit, à la République, à la démocratie, le respect de la démocratie.
Je pense que.
Je peux vous assurer qu'avec le Rassemblement National, c'est l'état de droit, il est loin d'être respecté. Et d'ailleurs, quand on voit leur prise de position, je sais pas si on aura le temps de parler de l'affaire Théo aussi, eux, ils sont plus sur de la justice. Justice expéditive sur le non-respect des droits et libertés individuelles. Et pour nous, ce sont des totems.
Pour toi, pas pour ton gouvernement.
Nous, en tant que Renaissance. Si, le gouvernement, si, on peut en parler. C'est la loi immigration, c'est vrai qu'elle a fait du mal aussi. On a des personnes, même en interne, qui ont été gênées de cette loi, qui ont voté contre. Aujourd'hui aussi, on a des outils constitutionnels qu'on respecte, qui vont donner leur avis.
Et à ce sujet, ceux qui ont voté contre, tu les reverras pas dans le prochain gouvernement. On en reparle.
C'est pas dit.
C'est pas dit. Tu verras.
Moi, je te dis, c'est pas dit.
Alors justement, vous parlez de l'affaire Théo. L'affaire Théo, vous savez quoi ? C'est le procès en ce moment. À compter de ce, à compter là, depuis hier, justement, jusqu'au 19 janvier, devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis. Figurez-vous que les policiers impliqués dans l'interpellation violente de Léo, souvenez-vous, en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Mais la question se pose. C'est que Éric Dupond-Moretti, qui aujourd'hui est ministre de la Justice, eh bien, il défendait une victime de cette violence policière. Aujourd'hui, il tient un autre discours, Bruno Pomard. Alors, pourquoi ce décalage ? Parce que c'est vrai.
Mais tout simplement parce que lorsqu'il était, il était avocat de droit commun, il était connu, on l'appelait acquittateur. Hein. Il était connu pour défendre, évidemment, les pires individus.
Non, mais on ne l'appelait pas acquittateur parce qu'il défendait les pires individus. On l'a appelé acquittateur parce qu'il a réussi à faire acquitter des gens.
Oui, pas tout le monde, pas autant qu'on veut bien le dire. Mais quoi qu'il en soit, c'était son rôle en tant qu'avocat.
Mais c'est une surprise quand même. C'est une surprise quand même pour l'avocat.
C'est-à-dire quoi ? Parce que Dupond-Moretti, maintenant, il a changé de bord et il a plus notre discours. Mais est-ce qu'il a changé de discours ?
Il est ministre de la justice, donc forcément.
Si on écoute ce qu'il disait quand il était avocat, il disait clairement, je défends des personnes et pas des causes.
C'est les victimes.
Donc, on l'a beaucoup critiqué, notamment parce qu'il a défendu les auteurs d'attentats terroristes par le principe du métier d'avocat. Il l'a jamais renié. Aujourd'hui, il est ministre de la justice, il s'est éloigné de ses casquettes-là, tout simplement.
Exactement.
Donc, on peut très bien avoir été l'avocat de Théo. D'ailleurs, ses associés actuellement, c'est Antoine
nouvelle...
May qui est l'avocat de Théo.
Mais peut-être que cette nouvelle a contrarié. Peut-être qu'elle contrarie.
On va y arriver, Vivi.
Ça contrarie Théo, tout simplement, cette histoire-là. Parce qu'à l'époque, Dupond-Moretti.
Il était très dur, justement. Lui, lorsque l'affaire est sortie, je me rappelle de ses interviews, notamment.
Il avait défendu le
CNR. Ah oui, il avait été. Mais c'est normal. Il était là pour défendre la police.
Je comprends pas la polémique, Adil. Il a défendu cette personne. Et aujourd'hui, dans ses propos sur ce cas, il revient sur ce qu'il a dit.
Mais ministre, il porte pas de jugement sur l'affaire en cours. C'est pas son rôle. Il a rien à dire.
Donc il y a pas polémique.
Ouais. Non, pas du tout.
Non, c'est que simplement il y a un changement de discours. Voilà, c'est ce qu'on
maintenant,
dit.
Maintenant, moi, je voudrais dire une chose sur la police dans cette affaire-là. Là, il y a beaucoup de policiers qui ont parlé et qui ont même dénoncé leurs collègues parce que c'est allé trop loin. Mmh. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que il faut que parfois les policiers, parfois même toujours d'ailleurs. Que les policiers dénoncent leurs collègues quand ils vont trop loin.
Je vais te dire, ils vont être blanchis, les policiers. Je te le dis tout de suite.
Ah oui, ils vont être blanchis.
Si tu veux, évidemment.
Vous parlez
Moi, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a quand même
une tentative de sodomie.
Non,
une pénétration avec une blessure.
Non.
Qui était assez profonde.
Oui, non, ça n'a pas été retenu.
Et c'est qu'à la vie. C'est qu'à la vie, quand même.
Ce qui a été retenu, c'est l'élément matériel ni l'élément moral ont été retenus.
Non, ça n'a pas été retenu, mais ils vont en discuter quand même aux assises. C'est parce que ça n'a pas été retenu par le juge d'instruction que ça c'est pas avéré. Maintenant, ils vont discuter pour voir si c'est avéré.
Mais je vous dis que non.
Ça n'a pas été retenu, ça ne veut pas dire que ça n'a pas passé.
Mais Bruno Pomard, je suis un peu surpris de votre réponse parce que. Vous dites qu'il sera blanchi malgré la décision de la justice. Donc vous n'attendez pas la décision de la justice.
Il y a eu une utilisation disproportionnée de la force, mais quand on a affaire, je ne sais plus qui c'est qui disait ça aujourd'hui sur le plateau, je ne sais pas si c'est chez Morandini ou quoi, quand tu as affaire à un mec de 2 mètres de haut, qui fait 5 kilos, que tu dois l'interpeller, je te mets au défi de le faire. Parce que c'est facile de le faire là, comme on est assis, de dire je vais interpeller le mec. Là, effectivement, il y a un usage peut-être disproportionné de la force qui va être discuté.
Mais Ergot vient de vous décrire la manière dont ça s'est déroulé.
Moi, c'est un traumatisme, c'est pour ça que je suis tellement.
Franchement, il faut qu'on fasse attention parce que.
Il y a pas une volonté de violer.
Ça fait moins d'un an qu'il y a eu la Vernelle. Oui, on est là maintenant, tout est filmé. Il y a des vidéos qui tournent. Les volontés, les machins. La banlieue est très tendue sur le sujet.
Moi, je voudrais dire une chose. Quand j'ai regardé.
L'élément moral qui ne sera pas retenu s'il n'y a pas eu volonté de violer. Attention, c'est vachement important de dire ça.
Si, mais je sais pas.
Qu'il y a eu une utilisation déproportionnée.
Et qu'il a dérapé la matraque.
Oui, mais attention. Non, mais c'est vachement important. Attention, il n'y a pas une volonté de. Là, on parle de viol. Il n'y a pas eu de viol.
Mais quand tu te retrouves avec une matraque entre les jambes.
Moi, je pense que c'est compliqué. Et pour retrouver de la confiance dans la démocratie, la confiance, et on voit, il y a des images quand même. On a une matraque qui est tenue d'une façon, perpendu qui le record, etc. C'est un peu bizarre, tout ça. Mais si on veut retrouver de la confiance avec nos concitoyens issus des quartiers veulent retrouver avoir une certaine confiance auprès de la justice de notre pays, il faut des décisions qui rassurent.
Je sais que je dois vous libérer parce que vous avez un train.
Je voulais dire quelque chose à Ergun avant qu'il parte.
Allez,
il est beau, il est intelligent, il a un bon discours.
Bon, parce que je suis marié.
Non, mais t'es pas mon type. Mais il est en train de me faire basculer dans Renaissance là.
C'est tout bon.
Bravo.
Non, je blague.
À très bientôt.
Portez-vous bien.
Au plaisir. Ciao, salut, on va parler de la loi immigration justement. Loi immigration, messieurs, justement, le face-à-face avec Bruno Pomard et Bibi Nassiri. Cette fameuse marche inédite qui se tient le 21 janvier pour montrer, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas ça la France, annonce Sophie Binet. Vous savez, Sophie Binet,
franchement.
Sophie Binet veut s'occuper des travailleurs.
Sophie Binet.
Non, alors, avant,
justement, elle veut s'occuper des travailleurs. Elle dit ce n'est pas ça la France.
Non, mais on parle de la loi immigration.
Et donc, elle donne rendez-vous.
Secrétaire général
elle donne rendez-vous
du.
Oui, elle donne rendez-vous.
Et donc, il y a un mélange de.
Des genres.
Des genres, ouais, tout à fait.
Pourquoi vous dites qu'il y a un mélange
de genres? Jusqu'à preuve du contraire, la CGT.
Attendez, parlons-en.
Parce qu'elle peut être citoyenne aussi.
En dehors de ça. Non, quand t'es secrétaire, c'est toi et moi, on peut le dire. Elle, elle peut pas le dire.
Non, mais là, c'est la
secrétaire générale.
Non, mais là, c'est la secrétaire générale qui parle. Il a raison. Bruno Pomard, pourquoi?
Je pense que c'est pas son rôle de dire ça, tout simplement.
Mais elle dit marchons pour la liberté, l'égalité et la fraternité.
Mais qu'elle s'occupe de l'emploi et des
et d'accord, et mais si c'était pas elle, alors on va faire autrement.
Problématique
si c'était pas elle qui disait ça, est-ce que cette manifestation est légitime ou pas?
Mais le droit de manifester.
Non, bien sûr, c'est ce que vous dites sur les plateaux de télé.
Mais
qu'est-ce que tu penses de cette manifestation?
Mais les gens ont le droit de manifester. Je te dis simplement une chose que la loi immigration. Non, pas du tout. Je vais te répondre. La loi immigration que Darmanin a portée est difficilement. Il faut dire que il s'est fait harakiri. Les procédures d'expulsion plus rapides, c'est une nécessité. Oui, tout à fait. Qu'on donne au préfet la possibilité de pouvoir décider rapidement.
Ça, on est d'accord.
Sur les droits sociaux qui sont repoussés.
Vous êtes pour cette marche?
Vous êtes pour cette marche,
Bibi Nassiri?
De quoi? La couverture médicale?
Ben oui, bien sûr. Tu travailles, tu as le droit au même droit que les autres.
Moi, je sais que cette loi vous a scandalisé. Est-ce que vous êtes pour cette marche? Oui, forcément.
Et nos compatriotes immigrés sans papier également. Qu'on les régularise, c'est une bonne chose. Les mecs qui travaillent et qui ne sont pas régularisés, il faut les aider. Mais c'est exactement ce que dit la loi. Elle ne dit pas le contraire.
C'est pas sûr. Mais après, on va pas décortiquer la loi.
Non,
moi je suis pour toutes les marches.
Dis la vérité. Bruno,
je ne suis pas en garde à vue. Hein.
Il est malin dans ce qu'il dit. Il y a des choses qui vont être faites grâce à cette loi, on ne peut pas le nier. C'est tout.
Non, mais après qu'il y a un problème d'immigration, qu'il y ait des choses qui ne vont pas, on est d'accord. Mais après, il faut aussi. On n'entend jamais discuter les raisons. On parle des conséquences. Les raisons pour lesquelles. Tous ces émigrés, tous ces migrants sont venus en France. Mmh. Aujourd'hui, on a quoi? Des Iraniens? Des Afghans? On a fait la guerre en Afghanistan. Des Irakiens? On a fait la guerre en Irak. Ben oui, mais il y a des conséquences. Et on parle pas des conséquences climatiques et tout ça. On est responsable de beaucoup de choses, nous, les Occidentaux, les Français, je sais pas comment.
On doit en subir les conséquences.
Non, ça me révolte, ça. C'est notre histoire, il faut l'apprendre.
Tu sous-entends ça quand
tu le sais. Bah non, tu peux pas parler à ma place. Je te dis qu'on va faire. Non, je parle pas de colonisation. On va faire des guerres dans des pays, on casse des pays, on détruit des pays, et on s'étonne que les gens fuient leur pays.
Ce que vous dites par là, Bébé Nassiri, effectivement, c'est la loi immigration. C'est penser au départ de la genèse de, évidemment, de cette vague d'immigration. Ouais, de migration et d'immigrés qui sont venus aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un coup est-ce que ça prend pas un coup aujourd'hui pour cette nouvelle vague, quoi?
Moi je le crois pas. Je trouve que, mais il y a longtemps qu'on le dit, je veux dire, et même l'Europe d'ailleurs devrait se réveiller là, sur ce sujet-là, de dire que on doit avoir une immigration qui soit contrôlée.
Oui.
Qui soit utile à notre pays, oui. Parce que moi je suis franchouillard en disant ça.
Ben oui.
Quand on a des compatriotes qui viennent, qui travaillent dans les restaurants et qui sont sans papier, eh bien ces gens-là, il faut les régulariser parce que c'est normal. Ils travaillent, ils payent les impôts, etc. Le pire, c'est qu'ils sont pas régularisés, mais ils payent les impôts. Donc c'est quand même fou. Donc ces gens-là, il faut les aider. Et
tu serais de gauche, Bruno.
Le syndicat. Non, les syndicats hôteliers, tout le monde le dit. Et après, il y a une catégorie de gens qui n'ont rien à faire, plus rien à faire dans notre pays.
On est d'accord.
Ouais. Eh ben vous êtes d'accord.
Eh ben c'est ça, l'immigration.
Non. On se retrouve tout de suite. Mais pas que.
Gentil, méchant, il est méchant.
19h50, le Quoi de Neuf, tout de suite avec Louis Bachou.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
On nous accompagne tout au long de notre vie par une avalanche de chiffres. Pourquoi? Parce qu'il est dit que le développement des sociétés s'accompagne de la production d'un flot de données chiffrées qui vise à mesurer et évaluer une multitude de phénomènes sociaux. C'est plus qu'une avalanche, c'est une véritable submersion. Mais c'est aussi de la propagande. PIB mondial, PIB par pays et par habitant, masse monétaire, croissance, décroissance, dette, etc. Et l'on vous dit que la masse monétaire dans le monde est d'environ 467 200 milliards de dollars et que le PIB mondial est estimé à 101 000 milliards de dollars en 2022 par la Banque mondiale. On vous explique aussi, le PIB mondial, c'est la richesse créée. Comme moi, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente, mais vous pouvez faire une division. Le PIB mondial par habitant sur Terre est de 12 647 dollars par an. Au Burundi, fin 2022, le PIB par habitant est de 800 dollars. Le Qatar, lui, a 120 000 dollars et le Luxembourg, 142 000. Alors vous vous dites que depuis que l'Homo sapiens est sur Terre, les inégalités n'ont fait que croître. Dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, une intelligence collective, un équilibre commun allait de soi. Leur vie était marquée par une absence totale d'inégalités socio-économiques et une indifférence presque absolue à la possession des biens matériels. Vous vous dites aussi qu'il y a trop de pauvres, alors que l'on a créé 12 000 dollars par habitant en un an. Alors, on vous parle de la dette globale et que les pays ont accumulé, et l'on vous dit qu'elle est plus de 300 000 milliards. Et qui sont les grands emprunteurs? Les États-Unis, la Chine, le Japon, et à eux seuls, ils sont à l'origine de plus de la moitié de la dette mondiale. Leur mode de vie est bien au-dessus de celui de tous les pays d'Afrique et de bon nombre d'Asie et d'Europe. Et si maintenant, enfin, devant l'urgence climatique, la destruction de la biodiversité, la démographie, on acceptait, on décidait enfin une nouvelle façon de voir, le plan Marshall pour les habitants de l'Afrique. Pourquoi pas? Cela s'appelle le partage, la répartition. Nous pourrions ainsi grandir, former et rendre responsables tous ces enfants qui naissent en Afrique et qui s'expatrient. Rappelons-nous que l'âge médian en Afrique est de 16 ans. On change donc de paradigme, on ne travaille plus pour soi uniquement, mais pour tous, et on est fier de nourrir beaucoup d'enfants, beaucoup de mères, beaucoup de vieux. Mais vous me direz ensuite, les dettes, qu'est-ce que vous en faites? Et je vous répondrai, on change de paradigme. Alors pour les dettes, on dira comme ont dit les grands chefs de l'humanité autrefois, quand on disait « j'ai faim et j'ai soif d'eau potable », ils répondaient « on verra plus tard ».
Louis Bachou, que vous retrouvez dans le Quoi Neuf, comme chaque mardi à 19h50 précise.
Louis Bachou, il a dit tout ce que je voulais dire.
Voilà.
Il a conclu.
Oui, exactement.
Voilà. Le partage, et comme ça, les Africains resteront chez eux et n'auront pas envie de quitter le pays où ils ont leurs amis, leur vie, leurs parents, et ils n'ont pas envie de venir dans le froid et se faire taper dessus par la police.
Justement, dans leur pays. Mais ce que je voudrais rajouter pour Bibi, pour sa culture, c'est que par exemple sur les OQTF, il va y avoir une accélération des OQTF que les préfets auront la main là-dessus. Quand on sait qu'il y a près de 130 000 OQTF, et il y en a eu 13 000 effectués en 2022. Donc ça, il faut l'accélérer, parce qu'il y a des mecs qui n'ont plus rien à faire sur notre territoire.
Je suis d'accord.
Moi, je défends nos compatriotes, mais que ce soit des compatriotes franco,
franco,
tout ce qu'on veut. Hein. C'est ce que je défends.
Je suis d'accord avec Bruno Pommard.
Ah, ben pour une fois. Oui.
Merci Bébé Nassiri, au plaisir.
Bisous.
Merci.
Merci
Bruno Pommard.
Très heureux d'être
BFM.
Partagez. Voilà. Mais je ne reviendrai pas s'il y a Bruno Pommard.
Merci à Solal à la réalisation Time Sport avec
Bruno Pommard. Oui, merci
Solal. 20h21, c'est Vanessa avec Confident jusqu'à 23h. Kim demain matin, 7h-10h. Quant à moi, demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Et gardez le moral.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.